Partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Virginia Crespo.
Bonjour. Au cours de cette émission de la série Partager le savoir, Canal Académie a le grand plaisir de recevoir Catherine Vell. Bonjour Catherine Vell.
Bonjour Virginia.
Catherine Vell, vous êtes la petite fille de l'académicien de l'immortel André Chanson.
C'est exact.
Vous avez été comédienne. Nous en verrons dans un instant tout le talent. Publicitaire. Vous êtes aujourd'hui directrice de la communication du groupe Marie-Claire. Sœur Chocolat. Et le titre de votre troisième roman, après deux autres romans, intitulés « La vallée des mensonges » et « Le silence des sources ».
Parfaitement exact.
Alors, les Sœurs Chocolat sont parues en livre de poche. Canal Académie a déjà présenté les Sœurs de Chocolat à ses auditeurs. Nous invitons d'ailleurs les auditeurs de Canal Académie à écouter ou réécouter cette émission. Mais ces Sœurs Chocolat continuent leurs exploits. Elles viennent de traverser l'océan Atlantique, ont été accueillies de façon très favorable par les alliances françaises des États-Unis. Catherine Vell, racontez-nous ça.
Ça a été une expérience, une aventure formidable. J'avais l'impression d'être moi aussi une troisième sœur chocolat, parce que je dis trois parce qu'il y a deux héroïnes surtout dans le roman. Je savais qu'on avait glissé mon livre parmi une sélection pour les alliances françaises et n'ayant pas de nouvelles ni en juillet ni en août, je pensais que c'était cuit. Et je me disais, c'est bien d'avoir participé. Et puis, début septembre, j'ai reçu un coup de fil, j'ai reçu des mails qui m'ont dit, voilà, c'est vous. Les Alliances françaises des États-Unis, dans leur programme One Book, One Federation, ont choisi Sœur Chocolat pour être le livre d'études et de travail, d'apprentissage de la langue cette année. Et j'ai été infiniment heureuse. J'ai tout de suite pensé à mon grand-père André Chanson. Je me suis souvenue d'un moment de sa carrière quand il était président du Pen Club. J'étais toute petite à l'époque, mais je voyais bien que lui et son épouse partaient pour de longs voyages et revenaient avec des histoires, des cadeaux, des objets étranges. J'ai eu le sentiment qu'il était très heureux, et les lettres, son épouse aussi, de ce qui m'arrivait, parce que c'était comme un flambeau invisible qui était passé. Oui, on écrit dans la famille, oui, on est près de quatre générations d'auteurs qui se suivent. Et oui, on a ce goût de la langue et l'opportunité de le faire connaître et d'amener un petit peu de nous et de la langue française à l'étranger. Alors les États-Unis, c'était un rêve.
Et Canal Académie, qui est la radio donc située à l'Institut de France, qui vous reçoit aujourd'hui, Catherine Vell, dans une émission intitulée « Partager le savoir ». Nous sommes, je crois, vraiment en plein sujet. Donc, ces Sœurs Chocolat, est-ce qu'elles se situaient dans la trajectoire des deux autres ouvrages que vous aviez déjà rédigés, ou pas du tout ?
Alors, je dirais que ces Sœurs Chocolat n'ont rien à voir avec le premier livre, qui n'a rien à voir avec le second. Donc voici trois romans assez différents dans lesquels, si j'étais chanteuse, on reconnaîtrait une tessiture. Le goût des petites choses qui ont une telle importance dans la vie des gens. Donc j'ai un œil, j'ai une oreille aussi pour m'intéresser ou capter ça. La présence des animaux, la foi dans l'être humain, à qui je propose quelques désordres, quelques malheurs, quelques difficultés, parce que je trouve que face aux difficultés, les vraies natures se découvrent et on arrive presque à des sortes de voyages initiatiques. Alors, Sœur Chocolat, c'est mon premier roman d'aventure dans lequel il y a de la foi, de l'amour, du chocolat, des dangers, du suspense. Et je pense que ça ferait aussi les ingrédients d'un très bon film au cinéma.
Et deux lieux. Deux lieux insolites, voilà. Une abbaye et puis l'Amazonie. Alors racontez-nous, situez-nous donc cette abbaye.
En deux mots, l'histoire, c'est l'histoire que vivent deux moniales, c'est-à-dire deux religieuses qui ont fait vœu de se retirer du monde, qui vivent derrière la clôture, comme on dit, dans une abbaye. Et cette abbaye est très vieille et très pauvre, de plus en plus pauvre, vit du commerce, petit commerce, des tablettes de chocolat. Et au début de l'histoire, l'enjeu, c'est que si elle n'arrive pas à remettre en marche la chocolaterie, à avoir de nouveau des matières premières, des fèves de cacao, elle risque d'être expulsée. Et comme ce sont toujours des endroits magnifiques, On risque de proposer un 5 étoiles avec un golf. Donc c'est vraiment le voyage de la dernière chance. Avant de faire ce voyage, je voulais installer un lieu, le premier, la vie à l'abbaye, qui n'a pas beaucoup changé depuis 1580. La vie est toujours rythmée par les heures, par les prières. Ce sont des femmes qui sont plutôt dans le silence, dans l'obéissance, même si elles ont des moments de détente et de joie entre elles.
Eh bien, partons pour cette abbaye. Voici ces textes dans votre voix, Catherine Veil.
Precious Lord, take my hand.
Du haut des collines qui la saignaient d'une protection minérale et végétale, l'abbaye de Saint-Julien du vaste monde semblait assoupie dans les brouillards légers de ce matin d'octobre. Bâtie au fond d'un vallon sauvage et beau, propice au recueillement, surplombant un gouffre sombre, isolée des bruits du monde dans son édredon de verdure, l'imposante bâtisse paraissait éternelle. Mais seul le bruit glacé de la cascade avait traversé les siècles sans en être affecté. Qu'il était loin, le temps des splendeurs à Saint-Julien, le temps où 60 moniales et 2 confesseurs rythmaient de leurs chants les saisons et les heures. Loin aussi le temps où la chocolaterie tournait à plein, nourrie en permanence des fèves de cacao qui arrivaient régulièrement d'Amérique du Sud. Loin encore le temps où vergers et potagers, copiés sur ceux de Versailles, faisaient la joie et la fierté des évêques du diocèse. Aujourd'hui, passé l'ombre protectrice des 2 immenses cèdres du portail, tout ici criait la vétusté, la misère et l'abandon. Et puis l'humidité s'était infiltrée partout, pourrissant cultures et vieilles pierres. Par sécurité, toute une aile de l'édifice avait été mise en désuétude, car une grande partie du toit prenait l'eau, inondant les anciennes salles d'études et les espaces communs, et le mur de la clôture menaçait de s'effondrer en maints endroits. Les moindres sous filaient dans les réparations indispensables, en vain. Autrefois fierté des environs, l'abbaye déclinait doucement. Comme si les ravages matériels ne suffisaient pas, 2 sœurs avaient succombé à la grippe, et d'autres avaient demandé à quitter une région qui devenait soudain insalubre. Les vocations se faisant rares, chaque décès laissait une place vide à la prière et aux ateliers. Pour couronner le tout, les visiteurs désertaient aussi et les achats effectués à la petite boutique avaient fondu comme neige au soleil. Leur chocolat était toujours apprécié, mais plutôt que de prendre la route qui menait à leur solitude, les gens préféraient maintenant faire leurs emplettes dans les grandes surfaces qui s'étaient multipliées dans la région. Les finances baissèrent encore. Il arriva un moment où leurs moyens ne leur permirent même plus de se réapprovisionner en fèves de cacao. Faute de matières premières, la chocolaterie cessa sa production et on arrêta de faire tourner les machines. Ce fut comme une blessure secrète pour les sœurs. Quand elles auraient écoulé leurs dernières marchandises, comment survivraient-elles? La mission d'une communauté était de vivre de son travail sans revenu. L'abbaye était menacée de mort. Comme souvent, pareil cas, les vraies natures se dessinèrent. Calmes et fortes devant l'adversité, le petit groupe des sœurs qui restait fidèle au poste se resserra auprès de la mère abbesse, chef spirituel de la congrégation. Elles continuèrent de travailler dans la joie, comme si rien ne devait changer, priant avec encore plus de ferveur et de simplicité, louant chaque jour le Seigneur pour la beauté du monde, et chacune espérait, secrètement, au plus profond de son âme, qui l'aiderait à trouver une solution. À peine la cloche s'était-elle fait entendre que les religieuses avaient aussitôt cessé le travail. Après s'être rafraîchies les mains et le front à la pompe du potager, elles avaient chacune récupéré leur livre de prière et remonté l'allée vers les bâtiments. Sans hâte excessive, mais fermement. Car on ne fait pas attendre le Seigneur et rien n'est préféré à l'œuvre de Dieu. Elle se préparait à ce nouveau rendez-vous, le 4e du jour depuis les laudes matinales, tout en rejoignant le cloître. Et prit aussi à la 6e heure, car quand le Christ fut attaché au bras de la croix, ce jour fut interrompu et il se fit une grande obscurité. Rassemblées dans la paix et le silence du cloître, elles accordèrent encore leur âme, tout comme on accorde un instrument avant de le faire chanter. Chacune prit son rang dans la procession, rang d'âge, de responsabilité ou d'arrivée dans la communauté, la novice se plaça en fin de cortège. Toutes réunies enfin, elles marchèrent vers l'est et pénétrèrent dans le cœur. L'instant suivant, l'église s'emplissait de leurs chants. Les voix s'élevaient, pures et légères ou bien plus graves, rivalisant d'audace avec les fumées d'encens, montant haut, toujours plus haut, sous les arcs de pierre sombre. Et, dans la louange adressée à Dieu, elle chantait qui son admiration, qui sa joie ou son amour, qui encore sa détresse. Têtes penchées sous le voile, humbles et dociles, elles égrenaient les psaumes de Sexte dans la lumière éclatante du soleil. « Seigneur, Seigneur, apprends-moi à prier », répétait silencieuse la novice. Je voulais qu'elle soit catapultée dans un univers totalement différent, à des lieux de tout ce que leur imagination sage pouvait leur proposer. Et la Colombie m'a véritablement paru être un endroit important. Et surtout, quand j'ai réappris, je me suis remis en mémoire ce que le chocolat avait représenté en Amérique du Sud, le cacaotl, c'est la nourriture des dieux, des anciens dieux. Et bien quelque part, ce voyage qu'elles font de leur abbaye du centre de la France jusqu'en Colombie pour négocier des fèves et faire repartir leur petit commerce, ça peut s'apparenter à une quête du Graal. C'est leur quête du Graal à elles. Elles vont chercher la nourriture divine, même si là, il est question d'une friandise.
Partons pour la Colombie. Voici ces textes dans votre voix, Catherine Vell.
À perte de vue, à travers les nuages, partout, tout autour, jusqu'à l'horizon, tous les horizons, la forêt amazonienne, dense, moutonnante, interminable. Le fleuve ocre se tordait curieusement comme un gigantesque serpent qui aurait des problèmes de digestion avec quelque monstrueuse proie avalée trop vite, trop vivante. Formidable impression de force, d'énergie, à la limite de l'indécence. Inlassablement sous le petit avion, des ramifications oranges, les bras serpentesques du fleuve, se perdaient dans un dédale végétal sans début et sans fin. Même depuis cette hauteur, les boucles paresseuses du fleuve et les têtes crépues de la forêt étaient un vivant mensonge pour qui se laisserait tromper par leur air paisible, un leurre pour les imprudents, les rêveurs, les naïfs. Au début, ils avaient navigué comme en pleine mer, tellement c'était vaste, devinant à peine la rive en face. Rive qui s'avéra être un détour de leur propre côté de navigation, leur expliqua Conrad tant bien que mal. Pour le moment, Max semblait être sur le qui-vive, penché à l'avant de la pirogue tendue, il scrutait le rivage dont il s'approchait. Un bout de terre entre le ciel et l'eau, un magma vert entre le bleu du ciel et le brun de l'eau. Et plus on approchait, plus les tonalités de vert éclataient, allant du jaune acide au bleu soutenu, la forêt amazonienne se révélait à leurs yeux. La pirogue longea les rives inhospitalières, longtemps. Oh, heureusement qu'on ne va pas là-dedans, se dit Anne. Elle faillit crier quand, sur un mot de Max, la pirogue bifurqua vers la jungle.
Après les lieux, leur description, les personnages.
Il y a toute la congrégation des sœurs, qui sont presque une vingtaine, de la novice qui a 19 ans à l'aïeul qui a 92 ans, toutes avec des caractères à la fois très doux et très trempés. Il y a deux héroïnes, sœur Anne qui a 40 ans, 15 ans de cloître derrière elle, qui est une ancienne aristocrate ruinée, formidable et un petit peu pain bêche, un petit peu maîtresse d'école, surtout avec la novice qu'on lui a collée pour faire ce voyage de la dernière chance, qu'elle juge très mal. Cette fille a une histoire compliquée, on sent qu'il y a eu peut-être des garçons, des histoires de cœur, ça la décourage un peu. Bref, elles doivent quand même partir toutes les deux. Et elles vont apprendre à se supporter, et ensuite à se supporter dans le genre aide, c'est-à-dire à devenir véritablement des amies, voire des sœurs. J'avais vu une émission à la télévision qui était dans une abbaye justement et on voyait une vieille dame qui avait l'air absolument délicieuse et on lui posait une question sur une de ses co-religionnaires et elle disait « Ma sœur, qui n'est pas ma sœur, parce que si c'était ma sœur, je la giflerais tout de suite. » Et ça m'avait fait hurler de rire et j'ai tenu dans Sœur Chocolat à ce que les personnages, les religieuses, ne soient pas des images d'Épinal. J'ai voulu qu'elles aient bon ou mauvais caractère, mais tout ça est transcendé par leur envie de bien faire, par la force de leur vocation qui va être mise à mal et qu'elles vont être obligées de revisiter. Mais ce voyage initiatique qu'elles vont faire dans un pays sensuel, chaud ou glacial quand elles sont dans les montagnes à 4000 mètres d'altitude, va les bousculer, va les transformer. Je ne vous dirai pas si elles arrivent à réussir complètement leur mission,
quel changement
il y aura, voilà. Mais je me suis beaucoup amusée avec la trajectoire. Elles sont parties d'un moment où elles sont A, et puis elles deviennent A prime, B, C, D, E, F, G, jusqu'à ce qu'elles deviennent W, X, Y, et elles sont les mêmes et totalement différentes.
Jusqu'à ce dialogue Z dont vous nous faites maintenant la lecture.
Dans l'après-midi, quelqu'un cria « Les chèvres ! Les chèvres, attention, elles s'en vont vers le jardin !» Anne et Jasmine crièrent qu'elles s'en occupaient et foncèrent derrière les fugueuses. Les bêtes n'étaient pas loin. Ayant escaladé le muret du potager, elles dévoraient allègrement les dernières pousses de cresson, pressées, comme si on avait oublié de les nourrir depuis des semaines. Les moniales décidèrent de les laisser manger tranquillement. Elles s'allongèrent sur l'herbe verte, les bras en croix, et regardèrent les nuages courir au-dessus de leur tête. « Vous reviendrez ?» demanda Jasmine au bout d'un long silence. « Bien sûr. Et vous viendrez aussi, on gardera le contact. »« Promis ?»« C'est juré, » répondit Anne en tendant la main. Elle attrapa les doigts de Jasmine et les pressa doucement. « C'est juré. » Le soleil fit son apparition derrière les nuages gris et il leur sembla que les oiseaux se mettaient à chanter plus fort. Une alouette se jeta du firmament vers le toit de l'église en poussant un petit cri, et une chèvre se mit à bêler. Perché sur le muret des vieilles pierres, le chat regardait les deux femmes étendues dans l'herbe. Elles ne parlaient plus, mais il pouvait suivre le cheminement de leurs pensées. Heureux. Un gros nuage cacha le soleil, et elles se relevèrent en frissonnant. Les chèvres furent rassemblées, et tout le monde remonta vers l'abbaye. Il n'y avait plus qu'un gros chat gris, qui laissait la vieille blessure de sa patte. Les nuages se rassemblèrent, se défirent, se rassemblèrent encore, et la nuit tomba enfin sur Saint-Julien. Dans l'église, les femmes se mirent à chanter.
Catherine Vell, expliquez-nous l'accueil fait aux États-Unis à ces sœurs Chocolat. Vous vous y êtes déplacée ?
J'ai été conviée à me rendre à une session annuelle des Alliances françaises des États-Unis qui se tenait à la Nouvelle-Orléans, ville que je ne connaissais pas, tristement célèbre par Katrina qui a eu lieu il y a environ 5 ans. Et pour plein de raisons, bien entendu, je me suis organisée pour m'y rendre. J'avais reçu des gens des Alliances, de la directrice Mimi Grégory, du propriétaire de France Amérique, le magazine qui a annoncé ma nomination. J'avais reçu des témoignages déjà très amicaux avant de partir. Quand je suis arrivée là-bas, ça a été extraordinaire, de gentillesse, de chaleur. Je n'ai eu que des contacts amicaux, chaleureux, positifs. Et j'ai été extrêmement troublée par... Je savais ce qu'étaient les alliances françaises, bien sûr. Mais quand, à la fin de ma conférence, des gens sont venus me dire qui en français, qui en anglais, en américain, « You speak a very good French, thank you ». Ou « j'aime tes adjectifs », ou etc., etc. J'ai touché du doigt ce que c'était que l'engagement de quelqu'un d'étranger, même si certaines dames dirigeantes là-bas sont franco-américaines, mais beaucoup d'étrangers, beaucoup d'Américains. J'ai touché du doigt ce que c'est que l'engagement autour de la langue française. Et ça, c'est très beau, parce qu'on est tous un peu des... Monsieur Jourdain, on fait de la prose sans le savoir, on parle français puisqu'on est français. Et quand quelqu'un à l'étranger vous dit, vous parle, de ce que vous venez de leur dire, de leur raconter dans les termes qu'ils ont employés, c'est extrêmement important. Et il ne faut pas oublier l'étendard que ça représente pour la France, pour notre langue, que le travail inlassable de toutes ces alliances, que ça soit pour les enfants, pour les adolescents, pour les adultes. Il y a 1001 exemples pour approcher la langue, perfectionner la langue, goûter la langue. Ça a été un voyage formidable. Et alors, nous étions 2 vedettes, moi le numéro 2, mais il y avait Lafayette. C'est-à-dire que le comte Lafayette, actuel descendant du marquis, qui est une vedette comme tous les chefs d'État le sont en Amérique, eh bien Lafayette compte beaucoup aux États-Unis et à la Nouvelle-Orléans aussi. Et donc c'était merveilleux de voir cet homme d'une immense culture, d'une infinie gentillesse, répondre aux marques d'honneur et de sympathie qu'il recevait. Donc la France était vraiment très très à l'honneur. Traveling down the highway, flying across.
across the sea, the big man and his guitar would ride.
Comment est-on nominé ?
Je ne sais pas bien comment ça se passe. Je pense qu'il y a tout un tas de livres qui sont proposés par les uns et les autres. Ça a été un petit peu le mystère. J'avais su que quelqu'un m'avait proposé. Je n'en savais pas plus. Et ça a été vraiment, deux ou trois mois après, un grand choc, une infinie surprise, une grande joie. J'ai cru comprendre aussi que eux, comme nous, ont besoin aussi peut-être de séduire les plus jeunes, ceux qui n'ont pas eu accès aux grands auteurs, aux classiques français, que ça impressionne peut-être un petit peu. Et je me suis demandé si ce roman, qui a, comme je le disais tout à l'heure, certainement les atouts d'un grand film, n'était pas une façon d'aider aussi auprès d'un public peut-être un peu plus jeune. Je crois que c'est ça. On ne m'a rien dit, on m'a dit « vous avez été choisi ».
La transmission était là et vous avez senti, comment dirais-je, cette responsabilité de la présentation de la défense de la langue française.
Je l'ai d'autant plus senti que nous étions aussi en présence de l'ambassadeur de France aux États-Unis, l'ambassadeur Vimont, homme exceptionnel, qui hélas, je crois, est appelé, hélas pour l'Amérique, pas hélas pour lui, puisque je crois qu'il est appelé à de hautes, très hautes fonctions au niveau de l'Europe. Mais quand vous avez le descendant de Lafayette, quand vous avez l'ambassadeur de France, et tous les gens qui parlent un français exquis, des alliances françaises, des États-Unis, qui vous accueillent, vous embrassent et vous demandent de revenir pour des conférences, oui, on prend la mesure de l'importance que ça a.
Et on participe à cet héritage français ?
Oui, chacun à sa façon. Il faut très vite gommer tout ce qui serait tentation d'orgueil, suivi de tentation de « oh non, pas moi », d'extrême pudeur. Il faut se dire « c'est là, c'est comme ça » et il faut assumer ce qu'on représente, je crois.
Assumer, c'est le mot.
Oui.
C'est une grande responsabilité.
Oui.
Et il y a cette jolie photo qui a été publiée en son temps, couverture de l'ouvrage, vous vous souvenez, de Micheline Cellier-Gély.
Ah oui.
Livre entièrement consacré à votre grand-père, André Chanson. Et on vous voyait sur cette photo, dans la cour de cet
toute
Institut
petite.
De France, le jour de la réception d'André Chanson à l'Académie française. C'était le 17 mai 1957. On vous voit sur cette photo, vous, petite fille, donnant la main à André Chanson.
Alors non, justement, Virginia, je ne lui donne pas la main. Mais c'est amusant, tout le monde croit que je lui donne la main. Et cette photo m'a frappée parce que nous marchons côte à côte. Je suis minuscule, il est très impressionnant dans son habit d'académicien. Et cette photo, elle est déjà utilisée, mais sinon je m'en serais servie pour quand je serai très vieille et que j'écrirai d'autres choses.
Et
j'aurais appelé ce livre « Déjà, je marchais seule ». Non pas pour souligner une solitude, pour souligner une présence. Il est décédé, mon grand-père, il est près de moi. Tout le monde croit qu'on se donne la main. On n'a pas besoin de se tenir par la main. On est côte à côte. Et ce qu'il y a de merveilleux dans le métier, j'ai été comédienne comme mes parents, j'écris comme la plupart de la famille. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il n'y a pas de limite d'âge. On peut commencer très tôt à s'intéresser à ces choses-là. On peut continuer très tard. Et il y a une fraternité chez les comédiens et chez les auteurs de comportement devant la langue, qu'on la dise ou qu'on l'écrive, que je trouve très importante. Mais cette photo est merveilleuse. Mais mon grand-père m'a appris tellement de choses. Il m'a appris à skier. Il m'a appris à monter à cheval en Camargue à l'âge où les petites filles jouent à la poupée. Moi, j'étais au milieu des taureaux sauvages et je faisais du triage. Il m'a fait rencontrer Druon à cheval, il m'a fait rencontrer Kessel, que je trouvais normal qu'il ait écrit Le Lion. J'ai dit, il a une belle tête de lion, j'avais 7 ou 8 ans. Je venais juste de terminer, j'ai lu très tôt. Et cette photo représente tout ce que j'ai vécu aux côtés de mon grand-père. J'aime bien la phrase « aux côtés de ».
Un grand-père présent ?
Oui, à sa façon, hein. Il était quand même assez sévère et parfois austère. Mais surtout quand j'étais petite, on sentait qu'il avait soif, et Lucie Mazerix, son épouse aussi, d'essayer de m'imprégner sans m'imprégner, mais l'imprégnation s'est faite naturellement. Mais ils étaient très contents de voir que je m'intéressais aux poètes, aux livres, aux peintres et aux musées, puisqu'ils ont passé une partie de leur vie dans des musées fabuleux. Donc j'ai l'impression aujourd'hui, avec ce qui m'est arrivé, avec cette récompense, entre guillemets, aux États-Unis, j'ai l'impression de lui dire « Tu vois, Daddy », parce que je l'appelais Daddy, j'ai l'impression de lui dire « Tu vois, Daddy, Je n'ai pas déchu. Je t'ai suivi, j'espère que tu es content.
Voilà. Et les sœurs chocolat viendront peut-être un jour sur nos écrans. C'est ce qu'on souhaite alors à ces sœurs chocolat.
Fingers, oui. C'est ce qu'on leur
merci,
souhaite.
Merci Catherine Vell, merci de votre présence.
Vous.